rafraîchie délicieusement par l'éternelle chanson de la source, lorsque la servante revint, effarée, en proie à une émotion extraordinaire. Elle ne put parler tout de suite, tellement le souffle lui manquait. « Ah, mon Dieu ! Ah, mon Dieu ! Monsieur Grand Guillot est parti !» Pascal ne comprit pas d'abord. « Eh bien, ma fille, rien ne presse. J'y retournerai un autre jour. »«
Mais non, il est parti, entendez-vous ? Parti tout à fait !»
Et, comme dans la rupture d'une écluse, les mots jaillirent. Sa violente émotion se vida.
« J'arrive dans la rue, je vois de loin du monde devant la porte. Le petit froid me prend, je sens qu'il est arrivé un malheur. Et la porte fermée, pas une persienne ouverte, une maison de mort. Ouverte, une maison de mort. Tout de suite, le monde m'a dit qu'il avait filé, qu'il ne laissait pas un sou, que c'était la ruine pour les familles. »
Elle posa le reçu sur la table de pierre.
« Tenez, le voilà, votre papier. C'est fini. Nous n'avons plus un sou. Nous allons mourir de faim. »
Les larmes la gagnaient. Elle pleura à gros sanglots dans la détresse de son cœur d'avare, éperdue de cette perte d'une fortune et tremblante devant la misère menaçante. Clotilde était restée saisie, ne parlant pas, les yeux sur Pascal, qui semblait surtout incrédule au premier moment. Il tâcha de calmer Martine. « Voyons, voyons, il ne fallait pas se frapper ainsi. Si elle ne savait l'affaire que par les gens de la rue, elle ne rapportait peut-être bien que des commérages, exagérant tout. Monsieur Grand Guillot en fuite, Monsieur Grand Guillot voleur, cela éclatait comme une chose monstrueuse, impossible. Un homme d'une si grande honnêteté... Une maison aimée, respectée de tout plaçant, depuis plus d'un siècle. L'argent était là, disait-on, plus solide qu'à la Banque de France. Réfléchissez, Martine, une catastrophe pareille ne se produirait pas en coup de foudre. Il y aurait eu de mauvais bruits avant-coureurs. Que diable, toute une vieille probité ne croule pas en une nuit. »
Alors, elle eut un geste désespéré. Eh, monsieur, c'est ce qui fait mon chagrin, parce que, voyez-vous, ça me rend un peu responsable. Moi, voilà des semaines que j'entends circuler des histoires. Vous autres, naturellement, vous n'entendez rien, vous ne savez pas si vous vivez. »
Pascal et Clotilde eurent un sourire, car c'était bien vrai qu'ils s'aimaient hors du monde, si loin, si haut, que pas un des bruits ordinaires de l'existence ne leur parvenait.
Seulement, comme elles étaient très vilaines, ces histoires, je n'ai pas voulu vous en tourmenter, j'ai cru qu'on mentait. »
Elle finit par raconter que si les uns accusaient simplement M. Grand Guillot d'avoir joué à la bourse, d'autres affirmaient qu'il avait des femmes à Marseille. Enfin, des orgies, des passions abominables. Et elle se remit à sangloter.
« mon Dieu, qu'est-ce que nous allons devenir? Nous allons donc mourir de faim !»
Ébranlée alors, émue de voir des larmes emplir aussi les yeux de Clotilde, Pascal tâcha de se rappeler, de faire un peu de lumière dans son esprit. Jadis, au temps où il exerçait à Plassans, c'était en plusieurs fois qu'il avait déposé chez M. Grand Guillot les 120 000 francs dont la rente lui suffisait. Depuis 16 ans déjà. Et chaque fois, le notaire lui avait donné un reçu de la somme déposée. Cela, sans doute, lui permettrait d'établir sa situation de créancier personnel. Puis, un souvenir vague se réveilla au fond de sa mémoire. Sans qu'il pût préciser la date, sur la demande et à la suite de certaines explications du notaire, il lui avait remis une procuration à l'effet d'employer tout ou partie de son argent en placement hypothécaire. Et il était même certain que sur cette procuration, le nom du mandataire était resté en blanc. Mais il ignorait si l'on avait fait usage de cette pièce. Il ne s'était jamais préoccupé de savoir comment ces fonds pouvaient être placés. De nouveau, son angoisse d'avare fit jeter ce cri à Martine.
Ah, monsieur, vous êtes bien puni par où vous avez péché. Est-ce qu'on abandonne son argent comme ça? Moi, entendez-vous, je sais mon compte à un centime près, tous les 3 mois, et je vous dirai sur le bout du doigt les chiffres et les titres.
Dans sa désolation, un sourire inconscient était monté à sa face. C'était sa lointaine et entêtée passion satisfaite, ses 400 francs de gage à peine écornés, économisés, placés pendant 30 ans, aboutissant enfin, par l'accumulation des intérêts, à l'énorme somme d'une 20 000 francs. Et ce trésor était intact, solide, déposé à l'écart, dans un endroit sûr que personne ne connaissait. Elle en rayonnait d'aise. Elle évita d'ailleurs d'insister davantage. Pascal se récriait.
« Hé, qui vous dit que tout notre argent est perdu ? Monsieur Grand-Guillot avait une fortune personnelle. Il n'a pas emporté, je pense, sa maison et ses propriétés.
On verra. On tirera les affaires au clair. Je ne puis m'habituer à le croire un simple voleur. Le seul ennui est qu'il va falloir attendre. » Il disait ces choses pour rassurer Clotilde, dont il voyait croître l'inquiétude. Elle regardait la souleyade autour d'eux, seulement préoccupée de son bonheur, à lui, dans l'ardent désir de toujours vivre là, comme par le passé, de l'aimer toujours, au fond de cette solitude amie. Et lui-même, à vouloir la calmer, était repris de sa belle insouciance. N'ayant jamais vécu pour l'argent, ne s'imaginant pas qu'on pouvait en manquer et en souffrir.
« Mais j'en ai de l'argent !» finit-il par crier. « Qu'est-ce qu'elle raconte donc, Martine, que nous n'avons plus un sou et que nous allons mourir de faim ?»
Et, gaiement, il se leva. Il les força toutes les deux à le suivre.
« Venez, venez donc, je vais vous en montrer de l'argent, et j'en donnerai à Martine pour qu'elle nous fasse un bon dîner ce soir. »
En haut, dans sa chambre, devant elle, il abattit triomphalement le tablier du secrétaire. C'était là, au fond d'un tiroir, qu'il avait, pendant près de 16 ans, jeté les billets et l'or que ses derniers clients lui apportaient d'eux-mêmes, sans qu'il leur réclamât jamais rien. Et jamais non plus il n'avait su exactement le chiffre de son petit trésor, prenant à son gré, pour son argent de poche, ses expériences, ses aumônes, ses cadeaux. Depuis quelques mois, il faisait au secrétaire de fréquentes et sérieuses visites. Mais il était tellement